Alors, bonsoir à tout le monde. Nous allons continuer notre étude ou survol de l'Évangile selon Matthieu et nous serons dans Matthieu chapitre 6 en continuant l'enseignement de Jésus sur la prière. Et ce sera donc Matthieu chapitre 6, les versets 7 à 15. Je lisais au sujet de ce passage pour préparer le message que sans doute nous avons ici les paroles les mieux connues de tout le Nouveau Testament et peut-être de toute la Bible, sans doute les paroles les plus mémorisées et certaines des paroles sur lesquelles on a le plus écrit. Non seulement il y a des romans, ou pas des romans, mais des commentaires, des livres entiers écrits sur la prière qu'on appelle le Notre Père, mais il y a des livres écrits sur les livres qui ont été écrits sur le Notre Père. Donc c'est vraiment quelque chose de très vaste, de très riche et de très profond, et on va que pouvoir gratter la surface. Mais une des choses que je crois qui est importante, l'idée c'est pas forcément de trouver quelque chose de nouveau, comme disait l'un des experts, mais simplement de revenir aux bases de ce que Jésus nous enseigne. Et donc, nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, les versets 7 à 15, avec simplement un rappel que nous avons une continuation de ce qu'on a vu il y a 2 semaines, où Jésus a parlé de 3 manières que les hypocrites utilisaient la dévotion, la piété, par donc les aumônes, les prières et les jeûnes. Les hypocrites, et sans doute ils pensent ici aux pharisiens et ceux qui suivent leur enseignement, utilisaient ces choses pour se faire admirer des hommes. Mais après son enseignement au verset 5 et 6 sur la prière des pharisiens, Jésus va s'attarder un moment pour enseigner un peu plus sur la prière. Et c'est ce que nous lisons ici. Donc Matthieu 6, les versets 7 à 15. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Jésus donne ici 3 enseignements sur la prière. En fait, il y en a 4, mais on a déjà vu le premier sur la prière entre Dieu et nous-mêmes en privé il y a 2 semaines. Mais nous trouvons encore 3 enseignements qui sont liés, bien entendu, sur la prière. La première chose, c'est que Jésus enseigne à ses disciples de rejeter la manière de prier et la mentalité dans la prière des païens. Et après, donc, avoir rejeté la mentalité des hypocrites juifs. Il dit aussi, la deuxième chose, c'est qu'il donne une prière modèle ou un exemple de prière. Et sans doute ici, c'est l'idée d'une prière de requête qui est montrée ici. Et la troisième chose, donc Jésus va revenir sur ce qu'il mentionne dans la prière au verset 12, revenir sur la question du pardon des péchés. Si nous demandons à Dieu le pardon des péchés, qu'est-ce que Dieu attend de nous avec cela? C'est une clarification. 2 choses donc que nous gardons à l'esprit lorsqu'on lit le Notre Père et qu'il faut vraiment comprendre. La première, c'est que Jésus ici est en train de faire un contraste avec la manière de prier des païens. D'accord? Le Notre Père, la prière qu'il enseigne à ses disciples, c'est l'alternative juste à comment priaient les païens à leur Dieu et comment ils faisaient leurs requêtes. Et la deuxième chose dont il faut se souvenir, et on y reviendra un peu par la suite, c'est que cette prière aussi, c'est une prière qui est donnée à des juifs pieux qui attendent la venue du Messie. Et il y a parfois certaines difficultés de comprendre ce que Jésus est en train de dire, parce qu'on oublie cela et on essaye de prendre cette prière, et même si je crois que c'est bien de la prier à tout instant, on oublie que quand Jésus l'a donnée, il y avait une attente spécifique pour les juifs de la venue du Messie, et que nous pouvons voir les événements qui sont demandés maintenant comme étant accomplis, ou en tout cas certaines des choses. Et donc il y a ces 2 perspectives, un rejet de la manière de prier des païens, mais aussi une attente que Dieu garde ses promesses, et une attente que nous croyons a été accomplie en Jésus-Christ. Bon, il parle de cette manière de prier des païens. Ces païens qui répètent des vaines paroles et qui s'imaginent ainsi qu'ils seront exaucés. Et on peut se poser la question, donc de quoi est-ce que Jésus est en train de parler ici? Si, je vais déjà peut-être dire quelques éléments que peut-être on s'imagine et Jésus n'est pas en train de parler de ces choses. Quand il dit ne multipliez pas les vaines paroles, Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas prier comme ceux qui ponctuent toutes leurs prières en disant Seigneur, Seigneur, Seigneur ou Père, 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 Père. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela, mais parfois des gens prient et puis au lieu d'une virgule, ils disent Seigneur, nous sommes reconnaissants Seigneur que tu nous aies réunis Seigneur, etc. Et je ne sais pas si ça vous dérange ou pas, je crois que ça vient vraiment d'un cœur sincère, mais Jésus n'est pas en train de dire ces personnes qui disent Seigneur, Seigneur sans arrêt dans la prière, Dieu rejette leur prière, d'accord? Il ne parle pas de cela. Jésus n'est pas en train non plus, je crois, de parler de prières récitées, d'accord? Que c'est interdit de réciter des prières. On voit les psaumes qui sont dans les Écritures, qui sont des prières récitées. Et cette prière ici aussi est une prière qui est souvent récitée. Bien entendu, cela ne suffit pas de dire des paroles sans que notre pensée soit engagée. Et ça, c'est un problème. Mais c'est pas ici le problème qu'avaient les païens dont Jésus est en train de parler. Jésus n'est pas en train de dire non plus qu'une fois qu'on a prié pour quelque chose, une fois, on n'a plus le droit de prier pour cela. Okay? Parfois, on entend cette idée. Donc, c'est répéter des vaines paroles de prier demain pour la même chose pour laquelle j'ai prié aujourd'hui, etc. Au contraire, Jésus rappelle souvent aux disciples de prier avec insistance, d'accord? Avec une foi persévérante. Donc, les vaines paroles, ce n'est pas répéter la même requête. Okay? Par exemple, de prier pour la santé de nos proches qui sont malades, de prier pour la foi de nos jeunes ou de nos moins jeunes, ces choses plaisent à Dieu. Non, Jésus est vraiment en train de parler d'une manière particulière des païens qu'ils utilisaient dans leur prière. Et qu'est-ce que nous savons sur la prière des païens? Parce que c'est pas comme si on devait juste deviner. Il y avait quelques convictions qui étaient à la base de la foi païenne et de leur manière de prier à leur Dieu. Une des premières convictions païennes était que, généralement parlant, les dieux ne font pas attention aux êtres humains. Que les êtres humains, c'est pas une priorité pour les dieux. Une autre conviction était que les dieux pouvaient être manipulés pour nous donner ce qu'on veut. Et donc, il y avait ces deux convictions. Les dieux ne prêtent pas vraiment attention à nous. Et les dieux, si on sait les bonnes paroles, si on sait les bonnes méthodes, on peut les manipuler pour qu'ils nous donnent ce qu'on veut. Vous voyez ces deux idées. Et donc, que devient la prière dans ce contexte? Bon, la prière sert, premièrement, à attirer l'attention des dieux, et deuxièmement, à les convaincre ou à les forcer, parfois, à donner ce qu'on veut, en trouvant la bonne formule, en trouvant la bonne technique. Et c'est très intéressant, nous avons, bon, moi j'en ai pas à la maison, bien sûr, mais les archéologues ont trouvé, les chercheurs ont trouvé aussi, des exemples concrets de prières qui sont adressées aux dieux. Et qu'est-ce que les païens faisaient? Bon, on trouve des prières très sincères qui demandent, par exemple, que les dieux donnent la santé aux enfants et d'autres. Mais il y avait une tendance, comme parle Jésus ici, de répétition. Et souvent, ce qu'on faisait, c'est on répétait le nom de la divinité à laquelle on s'adressait. Et on essayait de trouver tous les titres qu'on connaissait de cette divinité, on les disait à la chaîne. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était que si on savait le nom d'une personne, ou d'un esprit, ou d'une divinité, on pouvait mieux contrôler, mieux attirer la faveur de ce nom. Et donc, si on prie à Artémis, on allait citer tous les noms d'Artémis qu'on connaissait. Il y a même des prières qui énumèrent tous les noms d'Artémis ou de Diane, et puis ils disent ou tout autre nom que tu préfères utiliser pour toi-même. Et donc, il y a eu cette ponctuation d'invoquer les noms pour essayer de manipuler et de convaincre le dieu d'agir. Il y avait d'autres qui allaient beaucoup plus loin que ça. Ça, c'était des gens assez pieux. Il y en a d'autres qui disaient on va juste faire des prières où on va dire tous les noms de toutes les divinités qu'on connaît à la chaîne et de tous les prophètes et de tous les gens qui ont fait des miracles. Et on trouve ça, c'est juste des mots, un après l'autre, qui disent Zeus, Yahvé, Jésus, et puis c'est juste à la chaîne comme ça. C'était quoi? Bon, des vaines paroles. On dit des paroles pour essayer de convaincre un dieu ou des esprits de nous donner ce qu'on veut. Et de nouveau, la base de ça, la conviction que les divinités ne s'intéressent pas à nous, d'accord, et qu'on est obligé d'essayer de trouver une manière de les convaincre. Et Jésus dit, ne priez pas comme cela. Et le Notre Père, c'est une réponse à cette manière de prier. Jésus donne cette réponse, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, le Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Il y a une différence entre Dieu entre le Dieu d'Israël et ces faux dieux que les autres étaient en train d'adorer. Et donc, il y a cette conviction que Dieu voit, que Dieu sait, et que Dieu est le Père, et qu'il désire répondre. Et donc, ce premier danger dans l'attitude de la prière, qui pouvait même affecter les disciples de Jésus, d'accord, c'était cette idée, on va essayer de trouver les bons mots, on va essayer de trouver la bonne formule pour que Dieu prête enfin attention à moi. Parce que s'il ne répond pas à ma prière, c'est parce qu'il ne m'écoute pas, n'est-ce pas? S'il ne répond pas à ma prière, c'est parce qu'il ne s'intéresse pas à moi. Ou s'il ne répond pas à ma prière, c'est parce que je dis les mauvais mots dans ma prière. Voilà ce que pensait un païen. Mais les disciples de Jésus ne doivent pas penser comme cela. Quand nous réfléchissons à notre propre vie de prière, il y a le modèle que Jésus nous donne, mais nous pouvons aussi faire attention à parfois de tomber dans ce même piège qui est très naturel pour nous. J'ai la conviction qu'il y aura toujours, jusqu'à ce que Christ revienne, quelqu'un qui va venir en cherchant à vendre un livre ou une conférence, nous promettant de nous enseigner la bonne méthode de prier, les bonnes paroles à ajouter à notre prière pour obtenir ce qu'on veut. On tombe toujours sur ces choses. On nous dira que ce qui nous manque, c'est les bonnes paroles pour ponctuer notre prière. C'est une bonne formule ou invocation qui convaincra Dieu de nous donner ce que nous voulons vraiment. Et derrière cela, il y a cette idée fausse que Dieu ne sait pas ce dont nous avons besoin ou qu'il ne répond pas à nos prières, à part si on a trouvé les bons mots qu'il nous a cachés, mais que l'auteur du livre ou le conférencier va nous révéler enfin. Et cette pensée ne vient pas de Dieu. L'idée que la prière, c'est une procédure, et si nous avons tous les bons points, bon Dieu, comme un Selecta géant dans le ciel, va nous donner tout ce que nous demandons. Dieu est notre Père, il est celui qui nous aime et qui connaît nos besoins, et nous demande de s'adresser à lui comme un Père. Si nous croyons que le problème de nos prières est que nous utilisons la mauvaise formule, alors nous avons un réel problème. Et de dire, bon, maintenant je vais utiliser la formule du Notre Père et Dieu va me donner ce qu'il faut, c'est rater l'essentiel aussi. Jésus a enseigné avant que la confiance en Dieu et la recherche de son royaume, c'est la réponse aux prières non exaucées. De toujours chercher premièrement le royaume de Dieu. En fait, il va le dire plus tard, c'est pas encore dans le sermon sur la montagne. Ce n'est pas de chercher une formule magique ou autre pour convaincre Dieu de nous donner ce qu'il veut. Et donc, cette confiance en Dieu forme la base des requêtes. Et nous arrivons donc à la prière qu'on appelle le Notre Père. Cette prière que Jésus enseigne et que sans doute il priait aussi est remarquable par sa structure. Comme je vous ai dit, je crois qu'il s'agit ici d'un modèle de prière de supplication, c'est-à-dire des prières lorsqu'on vient à Dieu pour lui demander quelque chose, parce que c'est cela dont il parle pour mentionner les prières des païens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne un modèle ou une structure très différente de celle des païens. Vous voyez, le début de la prière, comme nous l'avons chanté et lu, c'est on commence par Dieu. On commence en parlant de qui Dieu est et de ce que Dieu veut dans notre prière. Et c'est seulement après qu'on vient aux requêtes, aux supplications qui viennent derrière. Je ne crois pas que c'est un modèle pour toutes les prières qui existent, parce que par exemple, on n'a pas d'élément de reconnaissance ici. Et nous savons que la reconnaissance fait vraiment partie importante, intégrale de la prière. Il n'y a pas vraiment non plus une partie de louange. C'est vrai que nous avons ce verset 13 et 14 qui est là. Mais si on regarde les copies les plus anciennes de l'évangile selon Matthieu, la doxologie qui dit « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire » au siècle des siècles, ne se trouve pas là dans le texte. Et c'est basé sur une prière qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique, et c'est tout à fait orthodoxe, c'est tout à fait vrai ce qui est dit. Mais il semble que ça a été ajouté quelques siècles plus tard dans le texte, peut-être pour que ce soit plus approprié pour être lu ou récité dans le culte. Mais les plus anciens textes ne l'ont pas. Ça ne veut pas dire que c'est faux, juste que sans doute Jésus ne l'a pas enseigné ici. Mais ce que nous retrouvons ici, c'est vraiment cette idée de venir à Dieu pour lui faire des demandes, mais en mettant Dieu au centre. Et ça, c'est vraiment important. On commence par Dieu, en l'appelant notre Père qui est aux cieux. Okay. Et de nouveau, ceci rejoint ce que Jésus a dit au sujet des prières des païens. Ils ne voient pas Dieu comme leur Père, qui sait ce dont ils ont besoin. Mais nous commençons nos prières en affirmant que Jésus est notre Père. Que Dieu est notre Père, pardon. Dans Matthieu 6, verset 32, quelques versets plus tard, il va donner des exemples, donc des recherches frivoles des païens. Et Jésus dira, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et ici, nous avons une image de Dieu comme Père, mais un Père qui connaît ses enfants, qui sait ce dont ils ont besoin et qui subvient à leurs besoins. Ce n'est pas un Père colérique ou autoritaire. Ce n'est pas un père qui abandonne ses enfants ou qui est alcoolique. Non, c'est un père qui est un bon père dans les cieux. Et Jésus se sert souvent de l'enseignement que Jésus est père pour rappeler aux disciples, aux juifs, à ceux qui l'écoutent, qu'ils peuvent faire confiance en Dieu, dans la prière et dans la vie de tous les jours. Et avec cette idée de la providence, du soin que Dieu donne en tant que père, il y a aussi l'idée de l'autorité. N'est-ce pas? Que Dieu est Père et il prend soin de nous, et que Dieu est Père, donc c'est lui qui commande, qui dirige sa maison. Et cela nous amène donc à la suite de la prière. Si nous prions notre Père qui est aux cieux, on continue en parlant donc de l'identité de Dieu et ce désir que Dieu manifeste sa sainteté dans le monde. Que ton nom soit sanctifié, et il continue, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça semble un peu bizarre de dire à Dieu que ton nom soit sanctifié, n'est-ce pas? Bon, quand on parle dans la Bible du nom de quelqu'un, la plupart du temps, sauf si on est vraiment en train de nommer quelqu'un, ça veut dire la personne, son identité, n'est-ce pas? C'est pas juste, on va avoir beaucoup de respect pour le mot Dieu, mais que Dieu lui-même est sanctifié. Et Dieu est déjà saint, et il ne peut pas devenir plus saint parce qu'il est Dieu. Donc, que signifie cette action de dire que ton nom soit sanctifié? Bon, je crois que c'est la Tob, ils ont que ton nom soit reconnu comme saint, et je crois qu'il y a pas mal de qui est juste dans cette idée, que les hommes et les femmes voient Jésus, voient Dieu et reconnaissent sa sainteté, qu'il est tout autre de voir sa perfection. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle parfois à travers les prophètes de l'idée de sanctifier son nom. Et dans ces exemples, c'est toujours Dieu lui-même qui est l'acteur. C'est Dieu lui-même qui est en train de sanctifier son nom devant le peuple d'Israël et devant les nations. Et quand on regarde les exemples dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel par exemple, comment est-ce que Dieu sanctifie son nom? Bon, c'est en faisant des œuvres de délivrance, en faisant des œuvres de jugement qui sont vues par tous et qui permettent au monde de savoir « Ah, Dieu est vraiment Dieu, Yahvé est vraiment Dieu du monde entier. Il est vraiment le Dieu qui est juste. Il est vraiment le Dieu qui libère. » Et pour un Israélite au temps de Jésus qui attend la venue du royaume, quel est l'acte historique important qui va révéler la sainteté de Dieu, qui va révéler Dieu aux hommes? Bon, je crois que c'est la mort et la résurrection de Christ lui-même, la venue du royaume de Dieu. Et bien sûr, à d'autres moments, on verra cela. Mais c'est cette attente et cette demande que Dieu révèle et accomplisse toutes ses promesses pour que le monde entier voie la sainteté de Dieu. Il dit « Que ton règne vienne ». Et de nouveau, ça c'est peut-être un peu bizarre pour nous de prier et on le priera d'une manière un peu différente. Parce que l'attente du règne, c'est l'attente du Messie, du fils de David qui va venir pour vaincre le mal, pour délivrer son peuple et s'asseoir sur son trône. Et nous croyons que par sa mort sur la croix, par sa résurrection et l'ascension, que Christ a accompli cette attente du règne qui était promise depuis des siècles. Mais Jésus enseigne cette prière alors qu'il est toujours en train de dire à ceux autour de lui « Le royaume de Dieu est proche ». Le règne de Dieu, c'est le même mot en fait, de Dieu est proche. Et il invite ses disciples à participer à cette attente, à prier pour l'accomplissement. Pour nous, nous ne prions pas que le règne vienne en Jésus, car il est déjà venu. Mais nous pouvons prier que ce règne se manifeste dans le monde, par la justice et la foi en Christ, dans nos vies, par l'obéissance, l'amour, la foi, les bonnes œuvres. Et bien sûr, nous attendons aussi, comme Paul prie à la fin de 1 Corinthiens, où il prie « Maranatha », n'est-ce pas ? « Viens vite, Seigneur ». Et nous pouvons prier pour le retour de Christ. Pas pour qu'il commence à régner, mais pour que son règne soit visible dans le monde entier. Mais de nouveau, l'attention est focalisée sur Dieu et son plan pour qu'il le réalise. Et puis finalement, dans cette prière adressée à Dieu, il y a cette soumission à la volonté et au règne de Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le théologien anglais John Stott a écrit « Trop souvent, notre état d'esprit dans la prière et dans la vie de tous les jours, c'est que ma volonté soit faite, Seigneur, c'est que mon nom soit sanctifié et que mon règne vienne dans ma vie. » Et nous voulons ne pas avoir cette attitude, n'est-ce pas? Nous voulons, premièrement, que la volonté de Dieu soit faite, que son règne soit manifesté dans le monde, que son nom soit connu et reconnu comme saint. Et ça, c'est important parce que nous croyons que Dieu agit pour le bien dans le monde, qu'il veut notre bien et qu'il est un Dieu juste et bon, et qu'il sait même mieux que nous ce dont nous avons besoin et ce qu'il fait. Par conséquent, de commencer les prières de supplication par la volonté de Dieu et de dire d'abord Dieu ce que toi tu veux, d'abord ton plan et d'abord tes projets, c'est juste parce que nous mettons notre foi en lui. Et en tant que père de jeunes enfants, j'aimerais bien qu'ils aient une telle confiance en moi parfois. Quand je leur demande de faire quelque chose, ils ont toujours quelque chose d'autre qu'ils préféreraient faire. Et on aimerait qu'ils fassent confiance dans nos projets parce que nous voulons ce qui est bien pour eux. Mais bien sûr, nous avons besoin d'avoir cette attitude envers Dieu lui-même et dans sa providence. Et donc, cette première chose dans la prière que nous voyons, Dieu est Père et une confiance dans notre relation avec lui en tant que Père. Mais aussi ce désir que la volonté de Dieu soit faite dans le monde et dans nos vies aussi. Et voilà comment on commence la prière. Mais on continue ensuite avec les demandes. Le pain quotidien ou le pain de ce jour, faut savoir dans le Notre Père, on serait surpris, mais il y a beaucoup de difficultés de traduction, de savoir exactement ce que Jésus voulait dire. Mais ici, probablement, c'est simplement cette demande que Dieu donne ce qui est nécessaire pour la survie et la vie au quotidien. Je me souviens lorsque j'étais jeune, quand j'étais enfant, on allait parfois visiter la cathédrale avec des visiteurs américains. Et puis c'était soit Larry, soit quelqu'un d'autre qui faisait un tour à pied, un tour pédestre de Lausanne, et on allait toujours à la cathédrale. Et à l'époque, il y avait un tableau où on pouvait mettre des post-it avec des sujets de prière. C'était toujours intéressant de lire parce que les gens venaient et c'était sans doute des adolescents, ils venaient et ils disaient « Je veux une PlayStation » et puis ils mettaient ça. « Je veux 1 000 000 francs » et je suis sûr que si ils ont encore le tableau, les gens font la même chose ici. Bon, très différent de la prière que Jésus montre ici. La demande, c'est pas « Donne-moi des choses frivoles qui répondent à mes besoins », mais c'est à mes envies, mais c'est une prière plutôt pour les besoins quotidiens qui sont là. Cette conviction que Dieu s'inquiète et Dieu se soucie aussi de nos besoins de tous les jours. Pas juste de notre santé spirituelle ou morale, même si c'est très important, mais Dieu écoute et Dieu répond à nos besoins pour le manger, le boire. Bien sûr, dans une culture tellement prospère que la nôtre, on n'a presque pas besoin d'y penser. Mais pour nous, de prier cela, peut-être c'est un rappel que tout ce que nous avons vient de Dieu aussi. On demande à Dieu ce qui est nécessaire pour vivre, mais aussi ce qui est nécessaire pour la communion avec lui, et c'est le pardon. N'est-ce pas? Pardonne-nous nos offenses, ou pardonne-nous nos dettes, a dit Jésus ici. Mais là, il y a une condition qui est donnée. Et cette condition peut nous surprendre, mais Jésus veut pas qu'on rate l'enseignement ici, parce qu'il va y revenir ensuite au verset 14 et 15. La condition, c'est qu'on pardonne aux autres. Et Jésus dit au verset 14 et 15, pour rappel, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Et la question se pose, et nous devons nous poser la question, est-ce que le pardon est donc conditionnel? Et la réponse est oui. Et nous le savons déjà, n'est-ce pas? Quand Jésus dit « Celui qui croit en moi et vient à moi aura la vie éternelle », nous savons que le pardon et que la vie éternelle est conditionnelle. Mais une des conditions importantes, c'est le pardon. Celui qui a été pardonné par Dieu, ou celle qui a été pardonnée par Dieu, doit pardonner aux autres leurs péchés, leurs offenses commis à leur encontre. Et ça, ce n'est pas un détail dans l'enseignement de Jésus. Jésus a dit dans les Béatitudes, au Matthieu 5, verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Okay, la miséricorde, c'est le pardon ou la grâce qu'on donne aux autres. Dans Matthieu 18, Jésus enseigne la parabole des deux serviteurs. Un qui a une dette remise par son maître, mais qui a un autre serviteur qui lui doit de l'argent et ne pardonne pas. Et le serviteur qui ne pardonne pas à son frère, à son collègue, bon, le maître refuse de lui remettre sa dette. Et Jésus dit ceci dans Matthieu 18, 35. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Et la raison pour cela est assez simple, en fait. C'est que avoir un cœur qui refuse de pardonner aux autres est incompatible avec le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu de pardon, qui désire sauver, qui désire faire grâce, qui ne veut pas tenir compte de nos fautes et de nos péchés. Et si nous croyons que Dieu nous doit cela, mais que nous ne devons pas montrer ce même amour aux autres, alors l'amour et la grâce de Dieu n'est pas en nous. Et nous ne sommes pas en communion avec Dieu. C'est incompatible. Celui qui comprend et qui accepte l'amour et le pardon de Dieu va forcément le montrer aux autres. Et Jésus exhorte, mais il avertit aussi. Et dans nos prières, nous rappeler de ça. Et donc nous prions, nous apprenons à prier pour ce qui est nécessaire pour la vie. Parce que Dieu se soucie de ces choses. Nous prions pour ce qui est nécessaire à notre vie spirituelle, le pardon de nos péchés. Et finalement, il y a cette prière pour la protection des épreuves ou des tentations du péché. Et là, vous avez peut-être lu ça il y a une année ou deux, l'Église catholique a changé les paroles officielles de la prière en français. « Ne nous soumets pas à la tentation », c'est maintenant « ne nous laisse pas entrer dans la tentation », un peu plus proche de ce qu'on a dans la colombe. Et puis l'Église réformée qui a suivi donc l'année passée. Et en fait, les deux traductions ne sont pas exactement ce que Jésus dit littéralement. Littéralement, c'est « ne nous conduis pas en tentation ». Et de nouveau, des livres et des livres entiers ont été écrits sur cette question. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Est-ce qu'il est en train d'enseigner que Dieu peut tenter, mais si on lui demande de pas nous tenter, ce sera pas le cas? Je ne crois pas. Ça correspond pas à l'enseignement de Jésus, ni à celui de Jacques. Dans Jacques 1, verset 13, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais quand on se rappelle de nouveau que Jésus s'adresse ici à des disciples qui attendent la venue du royaume, et on est certain que les douze sont là aussi, il y a deux événements importants où nous avons cette idée d'être délivrés du mal et d'être menés ou d'entrer dans la tentation. Le premier événement, c'est Jésus lui-même. Les 40 jours dans le désert, l'Esprit le mène dans le désert pour être éprouvé ou pour être tenté par le malin. Et il en ressort vainqueur de ces choses. Mais peut-être une des choses que nous voyons ici, c'est que Jésus est passé par cette épreuve, il a vaincu. Et puisqu'il a vaincu, bon, nous pouvons demander de ne pas passer par une telle épreuve que Jésus a faite. En tout cas, il y a un langage extrêmement proche et similaire entre les deux. Mais encore plus important, c'est la prière que Jésus va enseigner aux disciples, ou qui va ordonner aux disciples juste avant sa mort. Dans Matthieu 26, verset 41, dans le jardin, Jésus dit ceci aux disciples. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est Matthieu 26, verset 41. Dans Luc, c'est encore plus fort. Lors du dernier repas, Jésus dit dans Luc 22, versets 31 et 32, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et que toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et pour les disciples de Jésus, il y a un moment d'épreuve dans lequel ils vont entrer. Et c'est le moment où Jésus est arrêté, crucifié et mis dans le tombeau. Et tous ceux qui auront mis leur foi en lui se verront éprouvés. Et Jésus enseigne à d'autres moments à ses disciples de prier pour ne pas tomber et pour résister dans ces moments. Et c'est possible que Jésus est aussi en train de préparer ses disciples déjà dans cette prière. Mais bien entendu, l'application est plus large que cela. Nous ne pensons pas que Dieu va nous conduire, nous mettre dans des tentations pour que nous tombions, pour que nous péchions. Mais nous avons besoin, comme les disciples, de prier pour la force de résister dans les moments d'épreuve. Nous nous faisons des illusions si nous imaginons que notre propre volonté, notre propre force morale est suffisante pour vaincre le péché. Et si nous ne nous remettons pas constamment à la grâce de Dieu et à sa force et à sa protection, pour dire non au mal et non au malin, pour nous allons tomber beaucoup trop. Et Jésus nous rappelle, demandons ce soutien, demandons la protection de Dieu. Comme Jésus a dit aux disciples dans le jardin de le faire, nous devons continuer dans cette prière. Bon, voilà l'enseignement de Jésus, vraiment un survol. On pourrait tellement creuser chaque parole qui est là. Mais un jour, on aimerait terminer l'évangile selon Matthieu, aussi dans les prédications. Voyons Dieu, rappelons-nous que Dieu est notre Père. Il est notre Père qui nous pardonne, qui connaît nos besoins, qui répond à nos besoins et qui aussi nous protège dans la tentation. Et lorsque nous prions, mettons Dieu au centre. Avant de chercher notre volonté, cherchons la volonté de Dieu. Rappelons-nous qu'il nous aime. Mais aussi n'ayons pas peur de prier pour ceux et celles que nous aimons, qui ont besoin de lui, d'amener à Dieu nos besoins quotidiennement, pas juste physiques, mais spirituels aussi. Car nous savons que Dieu écoute et nous savons qu'il répond à ceux qui l'aiment et qui cherchent sa volonté.